cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 12 septembre 1995.
Commençons le cours de philosophie première. Alors, puisqu'il y a différents noms, c'est important dès le point de départ de comprendre pourquoi on dit philosophie première. On dit métaphysique ou philosophie première. Et puis en dernier lieu, Heidegger, ontologie fondamentale. Alors, c'est intéressant de voir pourquoi il y a cette variété de noms. Ce qui est au point de départ, c'est qu'on appelle la recherche de la sagesse. Il y a les sept sages, dont Thalès, premier philosophe. Puis, il y a eu le mot philosophie, c'est-à-dire l'ami de la sagesse. Philosophie, c'est l'ami de la sagesse. On a trouvé que s'appeler sage, c'était peut-être un peu présomptueux. Les autres peuvent vous dire que vous êtes sage, mais soi-même, on ne peut pas dire qu'on est un sage. On cherche la sagesse. Puisque la sagesse, c'est ce qu'il y a d'ultime, ce qu'il y a de dernier. Alors, le mot philosophie est né avec Platon, philosophia, et Aristote dit philosophie première, parce qu'Aristote est le premier à mettre dans la philosophie des niveaux différents, des recherches diverses. Pour Platon, il y a une philosophie qui a une méthode dialectique. Le mot dialectique naît avec Platon. C'est intéressant, là aussi. Et la dialectique, c'est justement le dialogos. Dialectique. Le dialogos, c'est, au fond, le jeu de relations entre les formes qui permet de monter un escalier. On monte de forme en forme. À travers. Et tous les livres d'Aristote ont été perdus. Ils sont tombés dans la mer. Puis ils ont été retrouvés par des bibliothécaires. Et alors, on a vu tous les livres de physique. Ils étaient très très nombreux. Puis on a vu un livre qui est un peu différent. Alors on dit métaphysique, après la physique. Oui, c'est tout à fait matériel. Et c'est le nom qu'a donné les bibliothécaires. Vous voyez l'importance des bibliothécaires. C'est le nom qu'a donné les bibliothécaires qui est resté, et non pas le nom qu'Aristote a donné. Aristote lui a donné le nom philosophie première. Pourquoi philosophie première? On l'a déjà vu. Philosophie première, parce qu'elle est ultime et qu'elle est première dans l'ordre de perfection. Toute la philosophie s'achève dans la philosophie première. Et la philosophie première elle-même s'achève dans une théologie naturelle qui est sagesse. Parce que le logos sur Dieu ne peut être qu'un logos de sagesse. On ne peut pas aller au-delà de Dieu. Il est l'être premier. Il est l'être ultime, selon les traditions religieuses. Le mot ontologie est venu après. Ontologia, vous voyez, en grec, on, c'est l'être, ce qui est. Et ontos, c'est le logos de l'être. Donc ontologie, c'est le logos de l'être. Alors, dit l'ontologie, et Ça, c'est beaucoup plus récent. C'est une théologie qui se distingue de la théologie. C'est une, je veux dire, c'est une philosophie qui se distingue de la théologie révélée de la doctrine sacra. Alors, on dira logos de ce qui est ontologie. D'où l'ontologisme qu'il faut distinguer. L'ontologisme, le gisme, hein, c'est toujours néfaste. Alors ça, c'est justement quand, de fait, commençant par l'idée d'être, on identifie l'idée et la réalité. C'est ça l'ontologisme. On passe de l'idée à la réalité, comme si, de fait, toute idée était identique à la réalité. Et Heidegger, luttant contre la métaphysique de Wolff, qui implique un ontologisme, va vouloir creuser plus profondément et retrouver une pensée sur ce qui est, penser l'être en face de l'oubli de l'être. Et alors, il parlera d'ontologie fondamentale. Oui. Donc, philosophie première, métaphysique, ontologie. Ontologie fondamentale. Bon, faut pas discuter sur les noms. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ça, au fond, exprime quand même quelque chose de particulier. Et c'est ça qu'on doit voir tout de suite. C'est qu'il y a un effort ultime de l'intelligence humaine. Et je dis bien de l'intelligence humaine. Pour découvrir ce qui est en tant qu'il est. La réduplication en tant que, c'est pour préciser l'aspect formel. L'aspect formel, c'est-à-dire l'aspect le plus précis sur lequel l'intelligence, lorsque elle expérimente quelque chose, peut, à travers l'expérience qui est toujours un tout complexe, regarder uniquement un aspect, l'aspect le plus radical et le plus profond, ce qui est comme être. Et c'est comme ça que Aristote va préciser la philosophie première, le to on et on. Je traduis ce qui est. Ça, c'est la traduction de Thomas d'Aquin. Le Toan, il le traduit id quod est. Ens, en latin. Le ens en latin, id quod est. La très mauvaise traduction des modernes depuis Heidegger, c'est traduire étant. On oppose étant à être. Voyez, le to on, c'est vrai, c'est le participe, c'est sûr, comparativement à einein, grec. Il y a être, le verbe être. C'est ça qu'il faut tout de suite comprendre. C'est que le mot être est d'abord un verbe. Alors là, on pourrait gloser énormément. Et c'est intéressant. Les philologues s'intéressent énormément à voir comment, dans les différentes langues, le mot, le verbe être apparaît. Alors l'avantage, vous savez bien, lorsque le verbe infinitif prend la forme d'un nom. L'être. L'infinitif du verbe je suis, ego eimi. Ego eimi, vous le trouvez dans Saint Jean, n'est-ce pas ? Ego eimi, je suis. L'infinitif. L'infinitif a l'avantage de prendre le verbe non plus relatif à un sujet, mais de faire le verbe un sujet. Vous trouvez ça constamment. Pierre marche, marchait. Je suis être. C'est très important de comprendre dès le point de départ que ce qui est très extraordinaire, c'est que le verbe être est un verbe. La saisie d'être, c'est du côté du verbe. Or, le verbe, normalement, est ce qui s'attribue à un nom. Je suis je. Pierre marche. Pierre est. Alors vous voyez, tout de suite, faire de ce qui est second quelque chose de premier. Ce qui est, c'est second, c'est relatif à ceci. Il y a ceci, tout de suite, de très particulier. C'est que cette philosophie première est déroutante pour notre langage. Parce que ce qui est second devient premier. Selon le langage, le verbe est toujours second. Il qualifie. Le verbe le plus simple, c'est le verbe être. C'est le verbe des verbes. Tout verbe implique est le verbe être. Je suis marchant. Je marche. C'est l'état dans lequel je suis. Eh bien, ce qui, selon le langage, est second, devient pour et pour l'intelligence premier. Oui, c'est pour ça qu'au fond, des quantités de personnes qui restent au langage n'entrent jamais en métaphysique. Si vous restez une philosophie du langage, vous n'entrerez jamais en philosophie première. Alors c'est très curieux, c'est très bouleversant cette chose-là. D'habitude, c'est le sujet qu'on regarde, Pierre. Pierre c'est l'homme, c'est ça que je regarde quand je dis la philosophie. Regarde l'homme, oui, elle regarde l'homme. Mais la philosophie première ne regarde plus l'homme, elle regarde ce fait que l'homme existe. Pierre existe. Il y a donc là, dès le point de départ, quelque chose de très très particulier. C'est que je suis en face d'un renversement de l'ordre du langage. Le langage exprime ma manière de connaître avec toute la convention du langage. C'est une convention dans le langage. Tout le monde travaille avec une seule langue naturelle. Mais de fait, il y a un aspect conventionnel, l'origine du langage. Vous ne chercherez indéfiniment pour savoir l'origine du langage. On ne la sait pas exactement. On essaie de la savoir en regardant la manière dont les singes parlent entre eux. Je veux bien. Je crois que ça aboutira à rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de langage entre singes. Il y a des cris. C'est affectif, le cri. Quand vous ne pouvez plus parler, vous criez. Vous savez bien. Quand quelqu'un est en colère, en grande colère, il crie. Il ne peut plus parler. L'affectif est tellement fort que ça boue. Le couvert saute, ça boue. Il crie. Les animaux, ils crient tout le temps. Mais tais-toi, ma petite poule, tais-toi. Non, non, elle crie. Impossible. Vous voyez, toujours l'angoisse, on crie. Les animaux sont terriblement angoissés. On comprend du reste. Vous voyez, la chose artificielle dans laquelle ils vivent. Les hommes font vivre les animaux dans une chose artificielle, de plus en plus grand. Alors ils crient, ils sont peureux. Le cri, c'est pas la parole. Le cri est affectif, comme le geste. Et la parole, c'est l'intelligence. Donc ça reflète l'intelligence. Mais ça reflète la manière de connaître et non pas l'intelligence comme telle. Alors ma manière de connaître, c'est de connaître d'abord les réalités, à dire les étangs, et en creusant je vois que je ne peux pas rester dans les réalités, telle réalité particulière, les étangs, les choses que je touche, que je vois. Je suis obligé de comprendre que ces choses ont quelque chose de particulier. C'est que toutes, elles existent. On dit que c'était là le point de départ de l'intuition de l'être de Raïssa, l'épouse de Marina. Elle regardait son petit chat. Elle dit, ce chat existe. J'existe. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a de commun avec le petit chat? Il existe. J'existe. Donc, il y a quelque chose de plus profond que le chat. Il y a quelque chose de plus profond que moi. L'exister. L'être. Qu'est-ce que c'est? Voyez bien, naturellement, selon le langage habituel, ce qui m'intéresse, c'est le chat quand même, il existe. L'être, vous l'avez jamais pris dans votre main, tandis que le chat, oui. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un petit chat pour supprimer leur colère, parce que c'est un petit être vivant, et qui miaule, alors c'est agréable, n'est-ce pas ? Un petit être qu'on peut toucher. Vous n'avez jamais touché l'être. Le bon père m'a donné, qui était un historien, et donc très positiviste, il y avait des faits qui existent. Il dit l'être, oui l'être. Oui, c'est quand on a 40 degrés de fièvre, alors on voit se balader dans le plafond. Quelque chose, ça c'est l'être. Ça, c'est évidemment, c'est l'historien qui se moque de la philosophie première. On voit très très bien, l'être n'a pas d'histoire. Oh, la philosophie première relative l'histoire, c'est terrible. Alors on se venge, c'est imaginatif. Non, c'est pas imaginatif, c'est l'intelligence. C'est l'œil de l'intelligence qui, au-delà des étangs, au-delà des choses, saisit ce qui est, en tant qu'il est. C'est quelque chose de très extraordinaire, ça. Et je vois que l'être, oui, toutes les réalités que je vois, elles existent. Toutes les réalités que je touche, elles existent. christianisme radical, c'est ce qui est en tant que il est. Ce qui est en tant qu'il est, donc c'est le verbe être qu'on met en pleine lumière. Ce qui est relatif, ça peut être le chat ou Raïssa. Alors ce qui, je laisse de côté, et l'être est relatif à ça. Il est commun. Je n'emploie pas un mot particulier pour parler de l'être de l'homme, de l'être du chat, de l'être de la pierre, de l'être du petit caillou. C'est toujours l'être. Pourquoi ça? Alors que l'être à l'homme est totalement différent de l'être au chat. On emploie un mot commun. Pourquoi? C'est que l'intelligence, parce que le langage me montre ça, c'est que l'intelligence ne peut pas se satisfaire d'atteindre le chat, ne peut pas se satisfaire d'atteindre moi, ne peut pas se satisfaire d'atteindre la vache. Elle atteint au-delà de la vache, au-delà du chat. Ceci est en pleine lumière. Et vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre au point de débat, cette sorte d'étonnement que l'intelligence ne peut pas se satisfaire de ce qu'elle touche. Ça, c'est ma raison. C'est ma manière de connaître. Je connais à travers les sens. Je te connais à travers mon toucher. Qu'est-ce que je touche ? C'est là la réalité. Vous n'avez qu'à faire l'expérience dans la nuit. Moi, ça m'arrive de temps en temps quand on change tout le temps de lieu, n'est-ce pas ? On se réveille la nuit, fait noir. Pff, où est-ce qu'on est ? On touche le lit, oui. Puis dès qu'on quitte, où est-ce qu'on est ? On avait la vision du soir. Et puis c'est plus du tout la même chose. On a besoin de toucher. Et oui, c'est très bien. L'intelligence touche. Elle touche des réalités existantes. Mais l'intelligence comprend que toutes ces réalités qui existent ont quelque chose de commun. Elles existent. Alors, je dois essayer de comprendre ce to-on et on. Ça, c'était la première façon d'exprimer ce qu'est la philosophie première. À partir de ce moment-là, la philosophie première est née. Je ne saisis pas ce que c'est que le cheval. Je ne saisis pas ce que c'est que le chat. Je ne saisis pas ce que c'est que l'homme. Je saisis l'être à l'homme. Vous voyez le passage très étonnant au point de vue de la vie de l'intelligence. Je quitte toutes les déterminations particulières pour saisir ce qu'il y a de radical dans toutes ces déterminations. Au-delà de toutes ces déterminations, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Et c'est pour cela, alors, Thomas d'Aquin, je mets les deux phrases en parallèle, Thomas d'Aquin dira que ce que l'intelligence désire en premier lieu, c'est ce qui est. Que l'intelligence saisit, atteint. Le mot latin est très curieux. Ens id quod cadit in intellectus, ce qui détermine en premier lieu l'intelligence, ce qui est. Hence, ce qui est. Pour que mon intelligence s'éveille en touchant ce qui est, en tant qu'il est. Mon intelligence ne s'éveille pas en saisissant la vache. L'intelligence ne saisit pas, ne s'éveille pas en saisissant le chat, en saisissant Raïssa. Non. Elle s'éveille quand elle touche l'être. C'est ce qui actue l'intelligence. C'est quand même extraordinaire, vous voyez, les deux se tiennent. Alors ça, c'est Avicenne. Ce que ça demande, reprend. Il y a eu une petite thèse à la Grégorienne, quelqu'un qui a voulu voir le nombre de fois où saint Thomas dit ça. 178 fois dans ses œuvres, je crois. Ce que, donc, qui prouve que c'est comme ce qui fait le lien entre toutes les œuvres de Thomas d'Aquin. Et que pour lui est capital. Quelle est la première chose que l'intelligence saisit? Qu'est-ce que l'intelligence saisit? Où l'intelligence s'éveille quand l'intelligence saisit? Hence, ce qui est, en tant qu'il est. La plupart du temps, faites aucune attention à ça. Il n'y a pas de science particulière sur l'être, non. Mais il y a une métaphysique. C'est pour ça que la métaphysique est complètement ignorée. Dans notre monde d'aujourd'hui, elle n'est plus enseignée. Pourquoi? C'est pas utile. Saisir l'être, c'est pas utile. Vous ne pouvez rien en faire. Il n'y a que l'intelligence qui le saisit. Vous ne pouvez pas avoir la main sur l'être. Non. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas capter l'être. Vous ne pouvez pas mesurer l'être. C'est quelque chose qui échappe. Seule l'intelligence saisit. Saisit ce qui est. Ça, c'est le jugement d'existence. Ceci est. Je ne dis pas le chat, mais je dis ceci est. Je mets en pleine lumière, c'est le jugement d'existence. Ou je mets en pleine lumière. Alors, bon, première approche, ça, brutalement, il faut réfléchir là-dessus. Et vous réfléchir sur ce qu'Aristote dit. Toon, éon. Ce qui est en tant qu'il est. Il faut réfléchir sur ce que dit saint Thomas. Et là, on voit le parallèle entre les deux. Et ça a été répété indéfiniment après, sous des formes multiples et diverses. Puisque, alors je reviens maintenant à nous. Ça, c'est historique. C'est intéressant, c'est historique. Mais c'est pas parce qu'Aristote l'a dit que je dois le répéter. Si je le répète, c'est parce qu'Aristote, en découvrant ça, a découvert quelque chose de très profond. Mais qui, 2000 ans après, et même plus, est repris. Il n'y a pas beaucoup de choses, hein, qui vieillissent comme ça et qui sont toujours jeunes. L'être n'a pas, est au-delà du temps. Ce qui est. L'intelligence est au-delà du temps. Alors, je vous ai dit que toute la philosophie était l'étude de l'homme. Alors, quand je vous dis ça, vous me direz, là, vous mettez le doigt dans l'œil. C'est pas l'homme, l'être. C'est vrai, c'est pas l'homme. Puisque l'animal, le chat existe, l'aigle existe. Donc, c'est pas l'homme. Donc la philosophie, ben oui, elle regarde l'être. Et si je commence par l'être, je déduis tout dans la lumière de l'être et l'homme échappe complètement. C'est ce qu'a fait la scolastique. Elle commence par la métaphysique. dit, mais non, il ne faut pas commencer par la métaphysique. Il faut commencer par la philosophie de l'art, l'activité artistique, le travail. Si maintenant je reprends tous mes points de départ de la philosophie à propos de l'homme, à propos de, je veux dire, tous mes points de départ de la philosophie où je trouve l'homme, l'homme travaillant, je travaille. Qu'est-ce que c'est que le travail pour l'homme? J'aime. Qu'est-ce que c'est que l'amour d'amitié pour l'homme? Je coopère. Qu'est-ce que c'est que la coopération pour l'homme? Les trois opérations fondamentales, il ne faut jamais l'oublier, sur lesquelles fonde toute l'anthropologie. Je dépasse ce point de vue-là et j'essaie de comprendre. L'homme, il a un corps, il fait partie de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire faire partie de l'univers par mon corps? Je commence là à étudier ce qu'est la matière, ce qu'est la nature. L'homme est toujours présent, c'est évident, c'est le corps de l'homme. L'homme est un vivant. Je vis. Je vois la différence entre la matière. Et quand je dis je suis un vivant, c'est moi. Pourquoi faut-il, au-delà de ces cinq expériences, découvrir quelque chose d'autre? Oui, je pourrais rester en face de ces cinq expériences. Le travail, l'amour d'amitié, la coopération, mon corps.
L'être est quelque chose de commun, et parce que c'est quelque chose de commun, c'est très
difficile à saisir. Il y a donc 5 voies d'accès. Il y a 5 voies d'accès pour saisir ce qui est. C'est un fait. Cherchez et vous verrez qu'il y a 5 voies d'accès. Ouais, Heidegger, qui aime le point de vue des images, prend ça comme, vous voyez, en allemand, Licht et Lichtung, dans la forêt, il y a des allées qui conduisent à un point commun. Il y a 5 voies d'accès. Il y a 5, et puis au milieu, l'être. Pour saisir ce qui est, il faut regarder l'homme travaillant. Je travaille. J'aime. 5 allées qui conduisent à quelque chose de commun, ce qui est. Donc, si je veux aller jusqu'au bout, au plan philosophique, pour connaître vraiment ces 5 expériences de l'homme, c'est l'homme qui se donne à moi à travers ces 5 expériences. Pour connaître vraiment ce qu'est l'homme, il faut que je connaisse ce qui est. Parce que l'homme, l'être, est à l'homme. L'homme existe. C'est l'homme qui existe qui m'intéresse. C'est pas quelque chose de imaginatif. C'est l'homme qui existe. Puisque c'est l'homme qui existe, je ne peux pas connaître parfaitement ce que c'est que l'homme si je ne regarde pas ce qui est. Donc vous voyez que la philosophie elle-même me conduit à l'étude de ce qui est comme tel. Donc, l'histoire de la philosophie, la structure de la philosophie réaliste, je dis bien. Et c'est là où je vois tout de suite la différence entre une philosophie réaliste et une idéologie. L'idéologie ne s'intéresse pas à ce qui est. S'intéresse en premier lieu, cogito ergo sum. Je cogite donc je pense. Je cogite donc je suis. Alors, l'être est connu à partir du cogito. Oui, c'est vrai. C'est une expérience. Je cogite. Donc, c'est vrai que l'être, d'une certaine manière, est manifesté à travers mon cogito. Mais est-ce qu'il dépend de mon cogito ? Ah, c'est là toute la question. C'est très vrai. Il m'est manifesté à travers mon travail. L'être se manifeste à moi à travers mon travail. L'être se manifeste à moi à travers mon amour. L'être se manifeste à travers mon cogito. Tout à fait normal. Descartes est dans le prolongement de la scolastique. Il y a un petit livre de Gilson qui est très intéressant. On voit que tout le langage de Descartes est scolastique, mais avec une nouvelle signification. Et cette nouvelle signification, elle est là. C'est que pour Descartes, l'être est relatif à la pensée. Alors que, de fait, si je suis tout à fait loyal dans mes expériences, je vois que l'être n'est pas relatif à ma pensée. Il est plus radical que ma pensée. C'est ma pensée qui est relative à l'être. Et donc Descartes a fait un tournant dans l'histoire de la philosophie qui, à la place de mettre en premier ce qui est, met en premier le cogito. Cogito ergo sum. Le sum, je suis, est relatif à ma pensée. C'est très vrai que j'atteins l'être par ma pensée. Mais est-ce que l'être se manifeste à moi au-delà de la pensée? Ou est-ce qu'il se manifeste à l'intérieur de la pensée, comme dépendant de la pensée? Toute la question est là. C'est Wilson qui dit ça d'une façon très très juste et très belle. différence entre le réalisme et l'idéalisme. J'aime mieux dire que c'est le point de départ des idéologies. On met la pensée, la connaissance de mes concepts, de mes idées, comme étant ce qui est premier. L'intelligence s'éveille par son cogito. Vous voyez que c'est pas radical, ça. Pourquoi je pense ? C'est parce que mon intelligence est en face d'une réalité qui l'éveille. Donc Descartes va jusqu'au bout. Il prend le cogito comme ce qui est premier. Mais le cogito, c'est le cogito de quelque chose, de quelqu'un. Je ne cogite pas pour cogiter, quoi. Je cogite, je pense à quelqu'un, je pense à une chose. Donc le cogito lui-même est relatif à une réalité, à un objet. Donc il n'est pas premier, puisqu'il est relatif. Je dois donc aller plus loin. Et en allant plus loin, je découvre que, au-delà de mes expériences diverses, il y a l'être. Troisième nécessité de la philosophie première. Je suis chrétien. Vous aussi. Je suis catholique. Hein? Si je suis catholique, je remarque que toute la tradition des pères de l'Église, toute la tradition des pères de l'Église, reconnaît que mon intelligence est capable de découvrir l'existence de l'être premier. Sans savoir exactement ce qu'est cet être premier. Cette affirmation de tous les pères de l'Église, l'affirmation de savoir, je peux, en grec c'est le eis esti, en latin le an est, le ansit. Et le ti esti, quid sit, en latin. Tous les pères, aussi bien grecs que latins, affirment que je peux saisir l'exister d'un être premier, celui qu'on appelle Dieu. Mais je ne sais pas ce qu'il est. Son quid, je ne sais pas. Je saisis l'être premier comme un être qui me dépasse complètement, dont je n'ai pas l'expérience immédiate. Mais je saisis qu'il existe. Mais cette petite distinction qui est une distinction des pères de l'Église et qui vient de la philosophie grecque. L'interrogation, existe-t-il ? Qu'est-ce qu'il est ? Ça, tout le monde peut comprendre cette distinction-là. Existe-t-il ce qu'il est ? Première interrogation. Seconde interrogation. Je suis d'abord en contact avec une réalité qui existe. Puis je me demande ce qu'elle est. Tous les pères de l'Église affirment que l'intelligence humaine peut par elle-même, par sa philosophie, par sa réflexion, saisir qu'il existe un être premier qu'on appelle Dieu, mais que l'intelligence humaine est incapable par elle-même de saisir ce qu'est Dieu. Et ceci a duré jusqu'à Luther. Et Luther dit non, l'intelligence humaine, à cause des conséquences du péché, est pourrie, corrompue. Et donc l'intelligence humaine ne peut pas par elle-même atteindre que Dieu existe. Je ne peux l'atteindre que par la foi. Donc là, il y a une rupture très très profonde au point de vue de ce qu'est l'intelligence humaine. Pour Thomas d'Aquin, les pères de l'Église, là, ce Thomas d'Aquin est dans la ligne de tous les pères de l'Église. Pour Thomas d'Aquin et les pères de l'Église, et jusque les modernes, Vatican I, en face de Luther, affirme que l'intelligence humaine peut, par elle-même, atteint l'excès de Dieu. Donc l'Église s'est prononcée. Je n'ai pas le droit, si je suis catholique, de dire l'inverse. Mon intelligence peut, par elle-même, découvrir l'excès de Dieu. Je ne dis pas que tous les hommes, par leur intelligence, découvrent l'excès de Dieu. Non, 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 non. Je dis que l'intelligence humaine peut, par elle-même, par un effort, continue découvrir l'existence de Dieu. Mais que l'intelligence humaine est incapable par elle-même, de savoir ce qu'est Dieu. Vatican I affirme cela. Et Vatican I précise qu'il y a des voies d'accès vis-à-vis des sens de Dieu. Regardez le catéchisme, le dernier, le catéchisme catholique, il l'affirme. Donc le croyant, le catholique, doit reconnaître qu'il y a des voies d'accès pour découvrir Dieu. Si donc je suis vraiment catholique, je vais aller jusqu'au bout. Et je veux savoir quelles sont ces voies d'accès. Or, la voie d'accès ne peut être que la philosophie première qui atteint l'être. Et c'est pour cela que l'Église catholique maintient à travers tout la nécessité de faire une métaphysique. Une philosophie première. Les protestants n'en font pas. C'est même, quand on est en dialogue avec un protestant, un pasteur, c'est le point le plus délicat entre catholiques et luthériens, entre catholiques et réformés. Alors, on comprend que si l'Église le demande, ben, nous devons essayer de le faire. Et ce n'est que par la voie de l'être ce qui est. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est commun à toutes les réalités que j'expérimente. Je ne peux pas, et alors ce serait très intéressant à bien voir, je ne peux pas découvrir l'existence de Dieu à partir de mes idées. Vous comprenez ? Sartre dit ça admirablement. Parce que si Dieu est une idée, il n'est pas Dieu. Une idée est quelque chose que moi, je connais. C'est limité. Je définis une idée. Dieu ne peut pas être défini s'il est Dieu. Il est premier, il est source. Je ne peux pas avoir de concept de Dieu. Donc toutes les idéologies s'écartent de Dieu. Seule une philosophie réaliste qui regarde connaît le primat de ce qui est par rapport à l'intelligence peut découvrir l'essence de Dieu. Ça, nous le verrons progressivement. Mais c'est une troisième raison qui fait que pour nous, la métaphysique, nous devons essayer d'entrer dans ce qu'elle est pour répondre filialement à ce que l'Église réclame de nous. Alors, dernière petite remarque. Si l'interrogation « Est-ce que cela existe ?» est première, on comprend qu'il peut y avoir celle-ci sans y avoir la seconde.
Essayez de